VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Conflit en Libye, les députés du Parlement de Turquie se prononcent ce jeudi sur une motion autorisant l'envoi de militaires par Ankara en Libye pour y soutenir le GNA, le gouvernement libyen d'union nationale reconnu par l'ONU. Une mesure qui risque d'aggraver le conflit fratricide qui déchire ce pays. Cette initiative s'inscrit dans le sillage d'un accord de coopération militaire et sécuritaire conclu fin novembre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj. Le chef de l'État turc a plusieurs fois déclaré que son pays était déterminé à aider militairement le GNA de M. Sarraj, reconnu par les Nations Unies, mais confronté à l'offensive d'un puissant rival, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Le maréchal Haftar est soutenu par l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, des rivaux régionaux de la Turquie. Politique en Tunisie, le premier ministre tunisien désigné par le parti islamiste Ennahda, Habib Jemil, a annoncé mercredi avoir fini de composer son futur gouvernement présenté comme une liste de personnalités indépendantes, sans toutefois en détailler la composition. Il avait auparavant remis au président Kais Saied la liste des ministres qui doivent encore obtenir l'approbation de la majorité absolue au Parlement, majorité dont ne dispose pas le parti islamiste Ennahda. Les seuils d'état donnés par le Premier ministre Habib Jemli sur la composition de son futur gouvernement, ce dernier compterait 40% de femmes et plus d'une moitié de jeunes. En Guinée-Bissau, la CNE, la Commission nationale électorale, a annoncé mercredi la victoire de l'ancien général et ex-premier ministre Umaro Sissoko Embalo au second tour de la présidentielle. Un résultat que son rival, le candidat du parti au pouvoir Domingos Simoes Pereira, a contesté en dénonçant une fraude électorale. Selon les résultats annoncés par la Commission électorale, Umaro Sissoko Embalo a remporté le scrutin du 29 décembre avec 54% des voix contre 46% pour Pereira, lui aussi ancien chef du gouvernement. Le président sortant José Mario Vache avait été éliminé dès le premier tour après un mandat de 5 ans terni par l'instabilité gouvernementale, la corruption persistante et la paralysie du gouvernement. Monsieur Vache avait apporté son soutien à Embalo qui fut son premier ministre de 2016 à 2018. Domingos Simoes Pereira a déclaré qu'il allait contester devant la justice le résultat du scrutin. Au Tchad, deuil au sein de la classe politique tchadienne suite au décès mardi à 65 ans de l'ancien premier ministre Joseph Dimnangar Dadnadji, leader du cadre d'action populaire pour la solidarité et la République, CAPSUR, un parti d'opposition. Monsieur Dadnadji avait été admis dans un hôpital de N'Djamena le 26 décembre. Timothée Donangmaï a recueilli le témoignage de Salibou Garda, un leader de l'opposition tchadienne, ami du disparu.
Je l'ai vu 48 heures avant la crise d'AVC qu'il a eue. Il se portait assez bien. Rien n'était envisagé d'une telle issue. Parce que nous avons beaucoup discuté. Et on se connaît depuis les années 79. Pendant cette crise-là qu'on s'est connu. Beaucoup de respect l'un pour l'autre. En tout cas, mon père est un grand commis d'État. Il a servi d'abord comme fonctionnaire, il a gravé tous les échelons de l'administration jusqu'au poste de Premier ministre.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de son action au niveau du gouvernement?
Au niveau du gouvernement, on ne peut pas retenir grand-chose. C'est-à-dire qu'il a essayé d'apporter un peu de la rigueur technique administrative dans la gestion de la chose publique, mais avec le régime du MPS où nous sommes dans un état de non-droit, il est difficile pour quelqu'un de rigoureux de travailler correctement, de vraiment donner le meilleur de lui-même, parce que c'est extrêmement difficile. Et je crois que c'est pour cela qu'il a claqué la porte, hein, parce qu'on a parlé du changement de gouvernement, mais en réalité, c'était une démission. Ça s'est fait avec fracas. Lui, il ne voulait pas démissionner, il voulait même un débat à l'Assemblée nationale pour expliquer sa gestion et les difficultés qu'il a eues. Il a dû renoncer à cela après plusieurs pressions et du conseil.
Dimnangar Dadnadji a rejoint l'opposition avec son parti CAPSUR. Quel aurait été son impact sur cette opposition?
Déjà, quand il a créé son parti, peu après, il est allé à l'élection présidentielle. Donc, il s'est fait une place quand même assez importante sur le Tchéquie. Parce que selon les résultats, la CENI, même s'ils ne sont pas totalement fiables, il est arrivé quand même quatrième. Et donc, il s'est taillé une place et aujourd'hui, sa disparition va perturber, va remettre en cause un peu, va rebattre les cartes au niveau de la Tchéquie politique. Ce vide va se faire sentir d'une manière ou d'une autre. Il a quand même sa connaissance de l'histoire du Tchad. La dernière fois que je l'ai vu, on a parlé des événements de 79 dont il était témoin. On a même échangé des documents à propos des différentes réunions qui se sont tenues ça et là, au sein de FAT, de CFAN, etc. Donc, c'est quand même un monsieur qui a un parcours riche, qui a beaucoup d'informations, et il aurait pu être très, très utile.
Salibou Garba, président du parti d'opposition Alliance nationale pour la démocratie et le développement, AND, joint à N'Djamena au Tchad.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe maintenant, en Angola, le bras de fer qui oppose l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos au gouvernement de son successeur João Lourenço a repris de plus belle avec la décision de la justice angolaise de bloquer les actifs de sa richissime fille Isabel dos Santos. Les précisions de John Lyndon.
Tout a commencé lundi lorsque le parquet général angolais a annoncé qu'un tribunal de Luanda avait ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs de Madame dos Santos, dont plusieurs entreprises angolaises, notamment Sodiam, qui opère dans le diamant, et Sonangol dans le pétrole. Isabel dos Santos est soupçonnée, avec son époux d'origine congolaise, Sindica Dokolo, et leur conseiller financier portugais, Mario da Silva, d'avoir détourné plus d'un milliard de dollars de fonds publics. Selon la justice, Isabel dos Santos a récemment tenté de protéger ses avoirs en les transférant du Portugal, ajoutant que la police portugaise avait intercepté 10 millions d'euros à destination de la Russie. L'opposition s'est réjouie du gel des avoirs de Madame dos Santos. Mardi soir, Isabel dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique et que les Angolais appellent la princesse, a dénoncé des allégations truffées de mensonges évidents, d'erreurs et d'omissions et manifestement arbitraires et motivées politiquement. L'Angola est le deuxième pays producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, mais selon l'ONU, plus d'un tiers, soit 36% de ses 30 millions d'habitants, vivent dans une pauvreté extrême.
Actualité hors d'Afrique maintenant. En Irak, les manifestants pro-iraniens ont quitté les abords de l'ambassade des États-Unis à Bagdad mercredi sur ordre des paramilitaires du puissant mouvement Hach al-Shaabi, coalition de groupes irakiens pro-Iran. Les protestataires ont ainsi mis fin à un épisode de violence qui a culminé avec une attaque inédite contre la chancellerie américaine dans la capitale irakienne. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La veille, mardi, le président américain Donald Trump avait menacé de faire payer le prix fort à l'Iran, accusé d'avoir orchestré l'attaque de son ambassade mardi, tout en assurant ne pas s'attendre à une guerre avec Téhéran. Pour sa part, l'Iran a convoqué le chargé d'affaires suisse pour protester contre, je cite, « le bellicisme américain ». Et le guide suprême Ali Khamenei a dit à M. Trump « vous ne pouvez rien faire, tout cela n'a rien à voir avec l'Iran ». L'attaque de l'ambassade, les raids des États-Unis et les attaques à la roquette les ayant précédés contre des installations abritant des Américains font redouter que l'animosité irano-américaine ne devienne un conflit ouvert en Irak, pays allié des États-Unis et de l'Iran. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a reporté une tournée en Ukraine, au Bélarus, au Kazakhstan et à Chypre pour suivre la situation en Irak.
Et en Israël, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption dans une série d'affaires et en lice pour les législatives de mars, a dit mercredi vouloir demander officiellement l'immunité au Parlement israélien. Et pour terminer, en Indonésie, le bilan des inondations et glissements de terrain à Jakarta suite aux fortes pluies qui se sont abattues le 31 décembre jusqu'aux premières heures du jour de l'an dans la capitale indonésienne s'est alourdi aujourd'hui à 21 morts. C'est ce qu'ont déclaré les autorités qui disent craindre des victimes supplémentaires. Plus de 30 000 personnes ont été déplacées à cause des inondations les plus importantes depuis plusieurs années, qui ont provoqué des coupures d'électricité dans certaines zones de la plus grande ville d'Asie du Sud-Est. L'agglomération de Jakarta compte 30 millions de résidents dans la capitale et ses environs. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.